L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je propose un peu un format différent. Aujourd'hui, un peu plus d'improvisation. Écoute Maëline, je suis là pour te remercier de m'avoir fait confiance pendant toute cette durée où tu as été là, où tu es l'animatrice phare de mes Macs, ainsi que Raphaël au son, à la technique, hein, qui est toujours là, qui sera toujours là. Et je propose un peu d'évoquer la naissance d'un bébé et donc de faire une onde spéciale sur les bébés en forêt.
Super, les bébés de la forêt. Ce sera un bébé de la forêt, en
voilà,
plus.
Voilà, les bébés de la forêt. Et donc, comme tu pars en congé maternité, je pense que vous allez préparer son arrivée de manière la plus heureuse possible. Et donc, également, souvent la première question qu'on pose à des futurs heureux parents, c'est un garçon, une fille.
Ah.
Et donc, je vous propose aujourd'hui de se pencher sur justement deux nouvelles qui abordent les garçons et les filles, et également l'enfance en forêt. Donc la première nouvelle, c'est Robin des Bois. Robin des Bois aussi, justement, la dernière fois lors de la midinale spéciale sur les femmes, on avait évoqué un peu justement le fait de parler de Robin des Bois.
C'est mon nom de famille en plus. Voilà, tout le monde sait que je m'appelle Maëline Robin.
Maëline Robin. Donc on va parler de la reprise d'Alexandre Dumas par Robin des Bois, pour Robin des Bois, car Alexandre Dumas a travaillé sur Robin des Bois. Les deux lectures que je vous propose proviennent du livre Le goût de la forêt, aux éditions Mercure de France. Alexandre Dumas, à la suite de Walter Scott et de Pierce Egan, reprit le personnage le plus populaire du folklore anglais. Dans notre imaginaire, Robin des Bois, hors la loi, au grand cœur, récusant les lois iniques d'un pouvoir corrompu, est indissociable de la vie libre avec ses compagnons dans la forêt de Sherwood. 5 années s'écoulèrent. La bande de Robin Hood, confortablement établi dans la forêt, il vivait en sécurité, quoique son existence fût connue des Normands, ses ennemis naturels. Elle s'était d'abord nourrie des produits de la chasse. Mais cette ressource, à la longue, aurait pu devenir insuffisante, ce qui avait obligé Robin Hood à pourvoir, d'une manière plus certaine, aux besoins de sa troupe. En conséquence, après avoir fait garder les routes qui traversent en tous sens la forêt de Sherwood, il était prélevé un impôt sur le passage des voyageurs. Cet impôt, quelquefois exorbitant si l'étranger surpris par la bande était un grand seigneur, se réduisait à fort peu de choses dans le cas contraire. Du reste, ces extorsions journalières n'avaient point les apparences du vol. Elles étaient faites avec autant de bonne grâce que de courtoisie. Voici de quelle manière les hommes de Robin Hood arrêtaient les voyageurs. « Sœurs étrangers, disait-il, en ôtant avec politesse la toque qui couvrait leur tête, notre chef, Robin Hood, attend votre seigneurie pour commencer son repas. Cette invitation qui ne pouvait être refusée était donc accueillie avec un semblant de reconnaissance. Conduit toujours courtoisement en présence de Robin Hood, l'étranger se mettait à table avec son hôte, mangeait bien, buvait mieux encore et apprenait au dessert le chiffre de la dépense qui avait été faite en son honneur. Il va sans dire que ce chiffre était proportionné à la valeur financière de l'étranger. S'il se trouvait pourvu d'argent, il payait. S'il n'avait sur lui qu'une somme insuffisante, il donnait le nom et l'adresse de sa famille, et l'on réclamait à celle-ci une forte rançon. Dans ce dernier cas, le voyageur, tout en restant prisonnier, était si bien traité qu'il attendait sans éprouver le moindre mécontentement l'heure de sa mise en liberté. Le plaisir de dîner avec Robin Hood coûtait très cher aux Normands. Néanmoins, on ne se plaignait jamais d'y avoir été contraint. 2 ou 3 fois, une compagnie de soldats fut envoyée contre les forestiers, mais toujours, heureusement, vaincue. Elle en arriva à déclarer que la bande de Robin Hood était invincible. Si les grands seigneurs étaient largement dépouillés, en revanche, les pauvres gens, saxons ou normands, recevaient un cordial accueil. Notre vieil ami Tuc se trouvait trop heureux en si joyeuse compagnie pour avoir eu un seul instant l'idée de se séparer. Il s'était fait construire un petit ermitage dans les environs de la cave, et il vivait plantureusement des meilleurs produits de la forêt. Il buvait toujours le digne frère du vin lorsqu'il avait le bonheur de rencontrer quelques bouteilles de l'Alfort, à défaut de vin et de l'eau pure, hélas, lorsque l'inconstante fortune lui retirait ses faveurs. Mais il va sans dire que le pauvre Gilles faisait alors une laide grimace et qu'il déclarait fade et nauséabonde l'eau limpide du ruisseau. Le temps n'avait point apporté d'amélioration dans le caractère du brave moine. C'était toujours le même homme, hâbleur, bruyant, fanfaron et prêt à la riposte. Il suivait la bande dans ses excursions à travers la forêt et c'était plaisir de rencontrer les gais compagnons au visage riant, à la parole animée qui, même en arrêtant les voyageurs, ne perdaient rien de leur aimable humeur. Ils se montraient à tous si visiblement heureux, si enchantés de leur manière de vivre, que la voix publique les nomma amicalement les joyeux hommes de la forêt. Donc voilà, ça c'était la première nouvelle hein, sur les hommes de la forêt, pour la question de savoir si c'est un garçon. Donc peut-être un peu voleur, peut-être un peu gourmand, peut-être un peu Robin des Bois.
Ah, on va voir, je suis curieuse d'écouter
coquin,
ce que c'est
coquin,
pour les filles.
Voilà. Et alors pour les filles, une autre histoire, une petite nouvelle sur la forêt de l'enfance. C'est en fait un échange dans l'intimité de sa maison de Nauphle-le-Château avec Marguerite Duras. Donc Marguerite Duras offrit un long entretien à Michel Porte sur sa vie et son œuvre. C'était en 1976, mais Marguerite Duras, comme toujours, s'inscrivait hors du temps. Pour elle, la forêt a toujours appartenu secrètement aux femmes et aux enfants. Marguerite Duras. La forêt, c'est la forêt de mon enfance, je le sais. Toute petite, enfant, j'ai habité des terres près de la forêt vierge, en Indochine. Et la forêt était interdite parce que dangereuse, à cause des serpents, des insectes, des tigres et tout ça. Et nous nous y allions quand même. Nous, les enfants, nous n'avions pas peur. Nous, nés là-bas, nous n'avions pas peur de la forêt. Et ma mère, qui était du Nord, qui était européenne, avait peur de la forêt. Du Nord du monde, elle était ma mère. Elle n'avait pas peur de la forêt, en fait. Elle avait peur de cette étrangeté-là, ces tropiques qu'elle découvrait tard dans sa vie. Et nous, on y grouillait comme le reste, voyez-vous. Avec mon petit frère, je l'ai raconté ça, dans le barrage contre le Pacifique, on y était complètement à l'aise. On mangeait les fruits de la forêt, on tuait les bêtes, on allait pieds nus dans les sentiers, on nageait dans les petites rivières, on allait chasser le crocodile, on avait 12 ans. Moi, j'avais tout de suite 9 ans. Pendant les siestes, on fuyait et on allait vers le danger très naturellement comme ça. C'est après coup, j'ai eu peur de ce que nous avions fait. Donc la forêt est au fou, vous voyez, et dans ma vie, elle a été à l'enfance. La forêt où je suis allé étant enfant, elle était pleine d'enfants, également dans la désobéissance. Et dans les terres du barrage contre le Pacifique, il y avait beaucoup de mendiants qui allaient sous les vasques de lianes dormir la nuit. Ils faisaient des feux. Ils dormaient là, et quand je parle du nomadisme des Juifs dans Jaune le Soleil, vous savez, de ces feux éteints partout, je pense qu'il y a un lien avec ce que j'ai vécu enfant. C'est la forêt du voyage, si vous voulez, du vrai voyage. Mais c'est l'enfance aussi, voyez. Oui, mais tout le monde n'en a pas peur de la forêt, dans mes livres. Les enfants de Dreux, ils s'y réfugient. Les petits assassins de 16 ans, des Yvelines, se réfugient dans la forêt. La forêt devient dangereuse de leur fait. Les gens ont peur de la forêt, comme ils ont peur de ces jeunes voyous et de toute violence. Mais maintenant, j'ai peur de la forêt. Je ne vais plus jamais dans une forêt seule. C'est un lieu, je ne sais pas, c'est un lieu inquiétant. C'est un lieu très très ancien. Et toutes les forêts, en principe, datent de la préhistoire. C'est des lieux sans doute hantés d'une certaine façon. Je ne refuse pas le mot. C'est la forêt dont nous avons parlé, nous, les femmes, les premières, que nous avons adressé une parole libre, une parole inventée. Tout ce que je vous disais de Michelet, que les femmes ont commencé à parler aux animaux et aux plantes, c'est une parole à elles, qu'elles n'avaient pas apprise, celle-là. C'est parce que c'était une parole libre qu'elle a été punie, c'est que du fait de cette parole, la femme se désistait de ses devoirs vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la maison, justement. C'est la voie de la liberté, mais il est normal qu'elle fasse peur. Voilà.
Super. On a des tigres ici en forêt.
Voilà, on a plein. Alors la forêt fait peut-être moins peur que celle de Marguerite Duras, mais voilà, c'est peut-être effectivement la liberté, le fait de rendre la liberté. Et en tout cas, on espère que ce sera un bébé libre, voilà, que vous irez très souvent en forêt avec votre enfant.
Évidemment, c'est prévu. C'est prévu. Merci Lionel pour ces deux textes.
Et merci à toi encore.
De rien, mais de toute façon, comme je le dis, on se quitte quelques mois.
Ouais.
Je reviens en tant que bénévole, non plus en tant que salarié de Radio Vassivière, mais je reviens. C'est pas non plus un au revoir.
Oui, oui.
Alors on se quitte en musique, comme d'habitude, justement avec une chanson, on reste sur le thème des bébés.
Des bébés.
Tu nous fais écouter...
Oh Baby,
The Forest.
In the Forest. Ah oui, c'est In the Forest de Oh Baby.
C'est parti. Mm-hmm.